Les infos, Clémentine Sabrier. Bonsoir.
Bonsoir. Donald Trump demande la capitulation sans condition de l'Iran dans le conflit contre Israël. Il a réuni ce soir son conseil de sécurité à la Maison-Blanche. 1h20 de réunion. Le président américain affirme que les États-Unis savent où se trouve le guide suprême iranien, mais qu'ils ne vont pas le tuer, du moins pas tout de suite. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a assuré hier que la mort de l'ayatollah Khamenei mettrait fin au conflit qui dure maintenant depuis 5 jours. De son côté, Emmanuel Macron tente la diplomatie. Il appelle à la désescalade en marge du G7 au Canada. Selon lui, un changement de régime en Iran serait synonyme de chaos. Vivement critiqué par Donald Trump, qui le qualifie de chic type, qui ne comprend jamais rien, le président de la République balaye ses attaques et parle de péripéties. Sur le terrain, les attaques se poursuivent entre les deux pays, Iran et Israël. À Téhéran, plusieurs explosions ont été entendues ces dernières heures. L'armée iranienne a tiré des missiles sur le nord d'Israël où des alertes ont retenti ce soir pour appeler la population aux abris. En Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce l'une des pires attaques russes contre Kiev. Des frappes ont touché la capitale ukrainienne la nuit dernière. Elles ont fait 14 morts. En France, la fumée blanche, ce ne sera pas pour ce soir au conclave sur les retraites. Les négociations se sont poursuivies toute la soirée alors qu'elles devaient se terminer dans la journée. Il y aura donc une ultime réunion entre syndicats et patronats lundi prochain. C'est ce que viennent d'annoncer la CFDT et la CFTC. La loi sur la simplification adoptée à l'Assemblée nationale, texte porté par le camp présidentiel mais largement modifié par les oppositions. Par exemple, il prévoit la suppression des ZFE, zones à faible émission. C'est majoritairement la droite et l'extrême droite qui ont voté pour ce texte. La gauche et les écologistes se sont prononcés contre. Il doit désormais passer en commission mixte paritaire. Pas de prison ni de bracelet électronique pour François Fillon. La Cour de cassation condamne l'ancien Premier ministre à 4 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, le Penelope Gate. Le scandale avait éclaté en 2017 en pleine campagne présidentielle. François Fillon écope également de 5 ans d'inéligibilité et 375 000 euros d'amende. C'était un grand nom du football français. On l'a appris ce soir, Bernard Lacombe est mort. L'ancien footballeur français et dirigeant de l'Olympique Lyonnais avait 72 ans. Fabrice Abgral, il était considéré comme l'un des plus grands attaquants du football français.
Bernard Lacombe n'a connu que 3 clubs, de 1969 à 1987. L'Olympique Lyonnais, son club formateur, l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux. À ses débuts à Lyon, cet avant-centre natif de Villefranche-sur-Saône côtoie son idole Floris Dinalo. Il est transféré en 78 à Saint-Etienne, mais il ne reste qu'une seule saison avant de partir à Bordeaux où il finira sa carrière en 87. En Gironde, Bernard Lacombe retrouve son ami Alain Giresse, mais aussi Jean Tigana. Il devient avec les Girondins 3 fois champion de France en 84, 85 et surtout 87. L'année du doublé Coupe Championnat. Bernard Lacombe marquera au total 255 buts en championnat, devenant le 2e meilleur buteur de l'histoire. Lacombe, c'est aussi l'équipe de France, 2 Coupes du Monde en 78 et 82, 12 buts marqués en 38 sélections, la dernière contre l'Espagne en finale de l'Euro 84, remportée par l'équipe de Michel Platini. Une fois sa carrière terminée, Bernard Lacombe est recruté en 88 par Jean-Michel Aulas pour devenir directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, puis entraîneur et enfin conseiller du président jusqu'en 2019.
Les hommages se multiplient ce soir pour Bernard Lacombe. Les Girondins de Bordeaux, avec qui il a été 3 fois champion de France, saluent un buteur de légende qui a marqué l'histoire du club par son talent et sa générosité. Le président d'honneur de l'OL, Jean-Michel Aulas, se souvient de 37 ans, d'une amitié sans masque, une fidélité rare, un homme qui ne parlait jamais pour ne rien dire. Et puis, il lui manquait cette statuette. Tom Cruise va recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Une 40aine de films avec plein de cascades, pour ne citer que Mission Impossible et Top Gun.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Le temps pour demain, Élodie Calac.
Une journée estivale, beaucoup de soleil partout. Patience tout de même ce matin, on trouve des nuages bas et des brouillards sur les régions voisines de la Manche ou dans l'intérieur des Landes, mais ça ne dure pas. Cet après-midi, quelques nuages vont se développer sur le sud des Alpes et la montagne Corse. On ne sera pas à l'abri d'une petite averse. Les températures montent encore un peu. Ce matin, ça reste raisonnable, 10 à 17 degrés, déjà 19 à 22 en Méditerranée. Cet après-midi, vous aurez 22 à 27 degrés près de la Manche, 28 à 31 sur le reste de la moitié nord, 30 à 33 en allant vers le sud et jusqu'à 35 entre le Roussillon et la basse vallée du Rhône. Ensuite, les températures poursuivront leur hausse au fil des jours. Une vague de chaleur se mettra en place pour la fin de la semaine avec des températures très élevées.
Merci Elodie Calac. Météo France, il est minuit 5 sur France Inter. Zoom Zoom Zen avec Mathieu Noël et toute sa bande.
Végétalisation urbaine.
Non mais ça là.
C'est vrai que ça y était pas avant ça. Ça fait une belle petite forêt. C'est touffu. On aime bien.
C'est vrai. Bah c'est un peu le greenwashing. Mais bon.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour, comme dirait Cyril qui compte les jours, le séparant de Palavas-les-Flots, la 9e émission avant la quille. Oui, c'est vrai, dans quelques temps, nous goûterons un repos bien mérité, loin du bruit et de la pollution dont souffrent nos grandes villes, un sentiment d'étouffée qui ne fait qu'amplifier avec le réchauffement climatique et qui nous a donné envie de zoomer aujourd'hui sur la démarche qui peut peut-être empêcher la ville de devenir totalement invivable à l'horizon 2050, la végétalisation urbaine. Et force est de reconnaître que les projets vont bon train, rien qu'à côté de chez moi, place du Colonel Fabien dans le 10e, un panneau l'annonce fièrement de cette fierté qui n'engage à rien, ici, création d'une forêt urbaine. Pas une simple végétalisation, pas la plantation de quelques arbres à fleurs par-ci par-là, non. Je le dis à mes voisins, dont Pierre Courade et Cyril Lacarrière, c'est une forêt urbaine qui nous attend, les gars. Attention, Pierre, derrière vous, un énorme anaconda. Comment, c'est pas un anaconda? C'est l'influenceur Adé Laurent, avec qui vous preniez un verre au cornichon. Autant pour moi. De loin, j'ai... Enfin, soyez prêts pour cette jungle qui vous rappellera l'Amazonie, Pierre. Une chance pour le quartier. Mais Cyril, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est beau, une forêt urbaine. Et utile. On va vous expliquer pourquoi. Rangez cette tronçonneuse. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Deux précisions, Mathieu Noël. Un, vous n'habitez absolument pas à côté de la place du Colonel Fabien.
Mais c'est plutôt quelqu'un d'autre de l'équipe, mais j'ai voulu, si vous
deux,
voulez.
Deux, Pierre Courade habite dans le 20e arrondissement.
C'est vrai.
Pas là, près de chez nous. Vous, rassurez-vous.
Alors, Pierre Courade me signale en régie 11e arrondissement.
Non,
visiblement,
il y tient.
C'est ce qu'il a mis sur l'annonce immobilière, en tout cas. Il a mis proche 11e. Bonjour, Nathalie Machon.
Bonjour.
Bienvenue dans notre classe complètement dissipée aujourd'hui. Vous êtes professeure, justement, d'écologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, spécialiste en écologie urbaine et coordinatrice du programme de sciences participatives Sauvage de ma rue. De quoi s'agit-il ?
Le programme Sauvage de ma rue, c'est un programme qui permet aux gens d'apprendre à reconnaître les espèces qui poussent dans leur rue, de nous envoyer les données, et nous, on arrive à faire le lien entre la qualité de la flore qu'il y a autour de chez eux et l'urbanisation, la gestion, etc.
Si je prends les photos des jardinières en face de chez moi qu'ils ont installées, là, il y a eu 4 mois de travaux, vous pourrez me dire ce que c'est ?
Alors, je pourrais vous dire ce que c'est, mais ce n'est pas le principe du programme Sauvage de ma rue. Le programme, c'est que vous appreniez à reconnaître les espèces
et que
vous
moi,
nous envoyez.
Ah,
voilà.
Avec
votre jardinier, Mathieu, par exemple.
Qu'est-ce que vous racontez, Quentin ? Ensemble, Nathalie, on va donc essayer de comprendre pourquoi la végétalisation urbaine est une bonne idée. Surtout, vous essaierez d'en convaincre mes collègues, et je vous le dis d'emblée, c'est pas gagné. Eux, ils aiment le bitume, les terrasses chauffées, et ils détestent Anne Hidalgo. D'ailleurs, je le dis pas trop fort, parce qu'à chaque fois qu'on prononce son nom, Manon postillonne partout en criant
« Jésus t'épargne ! Laisse-moi ! »
Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour. Non, mais vous allez mettre l'exorciste tout le temps, maintenant.
C'est une éventualité.
Il faut quand même préciser que ça n'est pas moi.
Non, mais en fin de soirée, ça
prête
un peu.
Oui, voilà.
On verra à la soirée du 26, à mon avis, en fin de soirée, on se rapproche de ça, effectivement.
Oui, Manon, que personne n'enregistre.
Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas la plus écolo de la bande. À chaque fois qu'on vous propose de partir vous oxygéner à la campagne, de faire une balade en forêt, vous nous rétorquez.
Ça brûle.
Mais non, mais ça ne brûle pas. Mais ça ne brûle pas. Point Zyrtec. Tout va bien se passer.
Ça, c'est quand même Waterloo.
Aussi.
Alors,
d'autant que tout à l'heure, vous nous présenterez l'autre personne à suivre sur la végétalisation.
Oui, bah justement, la seule, l'unique, l'idole de Pierre Courade, celle qu'il a même mariée à Lourdes l'année dernière, j'ai nommé la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Ça brûle.
Voilà, ça lui refait. Ça lui refait. Et vous, dans la rue, êtes-vous hostile? Êtes-vous aussi hostile à la végétalisation urbaine que Manon? Quentin, vous êtes allé poser la question aux passants qui sont heureusement beaucoup moins cons que nous. D'ailleurs, est-ce que vous arrivez encore à poser des questions ou bien on vous reconnaît tellement cette fin de saison 3 que les gens ont envie de faire des selfies avec vous, plus de vous répondre?
J'alterne un selfie, un micro-trottoir, un selfie, un micro-trottoir. Je me suis rendu place de l'Hôtel de Ville à Paris. Ça brûle! Non. Derrière les grilles d'un chantier qui se termine, on peut lire ce panneau. Projet de forêt urbaine, finalement.
En fait, il y en a partout.
Mais bien sûr. Alors là, coincé entre la rue de Rivoli et la Seine, que vous inspire ce chantier? Est-ce un oxymore, d'ailleurs, une forêt urbaine? Vos réponses dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous jouerons avec les plantes. Alors, pas comme Manon lors de son fameux week-end à Amsterdam, duquel elle était revenue avec des pupilles très dilatées. Non, là, tout sera légal. Le Zoom Zoom Test sera consacré aux plantes les plus étonnantes de la création. Juste avant 17h, une plante, une belle plante, elle aussi, dirait ce boomer de Cyril Lacarrière, nous serons rejoints par Rosa Burstein. Après 17h, on zoomera sur le dénouement du conclave des retraites. Va-t-il déboucher sur un accord historique ou au contraire accoucher d'une souris? On en parlera avec Jean-Claude Mailly, ex-secrétaire général d'EFO. Mais d'abord, donc, la végétalisation de nos villes. Nathalie Machon, avec le dérèglement climatique, on en parle souvent ici, on nous annonce des pics de température à plus de 50 degrés à Paris, dans d'autres grandes villes, dans quelques années seulement. Est-ce que cette végétalisation en milieu urbain, c'est une nécessité, j'allais dire, vitale?
C'est une nécessité vitale, c'est une question de vie ou de mort. D'ailleurs, la canicule de 2003, les gens qui sont décédés, c'était plutôt dans des rues où il n'y avait pas de végétation du tout, où il n'y avait pas d'arbres. Quand on passe une caméra thermique le soir soirs de canicule, on voit la différence. Elle peut être de 10, 12, 15 degrés entre les espaces où il y a arbres et de la pelouse et des toitures parisiennes qui sont surchauffées toute la journée.
On va tout de suite rappeler ça et le marteler parce que moi, je le découvre. J'aurais dit que la végétation pouvait réduire de 1 ou 2 degrés la température. Vous nous dites une dizaine de degrés. Ça peut changer d'une dizaine de degrés la présence d'arbres.
Tout à fait. Alors évidemment, c'est en temps de canicule, en temps normal, il n'y a pas des écarts aussi flagrants, mais le soir, quand les bâtiments ont chauffé toute la journée, le soir, on peut avoir monté à plus de 35 degrés autour des bâtiments et avoir une température de 23, 24 dans les espaces les plus végétalisés.
Alors Nathalie, on entend vos arguments qui tombent sous le sens, même Manon fait oui de la tête, c'est dire ok pour végétaliser, mais attention, n'allez pas nous foutre de la coriandre dans les jardinières. Sinon vous n'allez pas être copine avec Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef Bougon, qui déteste la coriandre, ça peut gâcher son repas, voire, vu l'importance du repas pour lui, sa journée. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors racontez-nous la végétalisation urbaine, d'où ça sort?
Imaginez un peu, 7e siècle avant Jésus-Christ, les jardins suspendus de Babylone, jardins qui font partie des 7 merveilles du monde antique, eh bien ils sont parfois vus comme une sorte de prototype de végétalisation au milieu du désert. Et c'était donc il y a près de 3000 ans. Revenons maintenant plus près de nous. Le sujet de la végétalisation urbaine a émergé à mesure justement que l'urbanisation s'intensifiait. À New York, c'est ce qui préside à la création de Central Park, un parc urbain de 340 hectares au cœur de la ville, imaginé par Frédéric Law Olmsted et Calvert Vaux. Leur idée, civiliser la ville.
Mais cette végétalisation urbaine, elle s'accélère surtout au XXe siècle.
Oui, grâce notamment à Le Corbusier qui imagine en 1935 la ville verte du futur. Paradoxal quand on sait qu'il affectionne les grands blocs de béton, mais il y intègre aussi des jardins sur les toits et entre les bâtiments. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le botaniste français Lucien Daniel parle lui de ville jardinée. C'est 50 ans avant un autre botaniste, Patrick Blanc, qui popularise le mur végétal. Le mur végétal, cette technique qui permet de faire pousser des plantes à la verticale. Le premier à avoir vu le jour est à la Cité des Sciences, ici à Paris, en 1986. On lui doit aussi celui du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, président Chirac. Il a aussi été le maître d'œuvre de murs végétaux à New Delhi, San Francisco ou Berlin. Aujourd'hui, en plus de végétalisation urbaine, on parle même de réensauvagement urbain. Alors, pourquoi ce besoin de végétaliser? Pourquoi ne pas y avoir pensé avant? À quoi servent ces forêts urbaines? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Bien sûr, vous voulez pas un peu de coriandre?
Ça brûle!
Là, vraiment, je plaisante, Cyril. Nathalie Machon, Cyril nous le disait, l'idée de végétaliser l'espace urbain, elle n'est pas nouvelle du tout, mais on semble l'avoir abandonnée, puisqu'on y revient aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu abandonner, mettre de côté une idée si bonne et de bon sens, finalement?
En fait, je crois qu'elle est quand même assez récente. Avant, il y avait des plantes dans les villes, mais c'est surtout au 19e siècle, le baron Haussmann a décidé de faire une ville bien propre, où les plantes seraient dans des squares et les bois de Boulogne et de Vincennes. Mais la chaussée, elle devait être parfaitement propre, etc. Et finalement, le réensauvagement, il est plus récent. Il vient du fait que, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'on est en train de perdre beaucoup de biodiversité et que les villes, comme elles s'étalent, elles prennent de plus en plus sur des espaces agricoles, naturels, etc. Et donc, elles chassent tout ce qui est nature en dehors. Et en fait, le but de la végétalisation, c'est de préserver les espèces sauvages au maximum, même dans les espaces les plus urbanisés, et surtout de créer un écosystème qui fonctionne et qui ait des propriétés qui soient utiles pour les citadins. Alors, rafraîchir, c'est une des utilités, mais par exemple, quand on bétonne tout, on a des problèmes d'inondation. On en voit régulièrement. La végétation, elle participe à la dépollution de l'eau, de l'air, du sol. Les arbres captent du CO2. Bref, les bienfaits sont assez innombrables, sans compter que dans une ville, c'est quand même plus agréable d'aller faire du sport dans un square que sur la dalle de la Défense, par exemple.
Vous dites néanmoins que verdir la ville ne la rend pas forcément fonctionnelle au niveau écosystémique. Ça veut dire
c'est
quoi?
Vrai. Ça veut dire que si on met que des plantes, par exemple, il y a des endroits, il n'y a que du lierre. Bon, c'est
ça
bien le lierre, mais ce n'est pas un fonctionnement écosystémique, c'est... C'est mieux que rien, c'est mieux que du bitume. Mais si on peut avoir des plantes qui interagissent entre elles, avec la faune du sol, qui attirent des pollinisateurs, qui vont pouvoir donner des fruits, des légumes, qui vont attirer des oiseaux, etc. Là, on a un écosystème fonctionnel qui a des propriétés beaucoup plus intéressantes, et pour lui-même, pour la biodiversité, et pour les citadins qui habitent à côté.
Si on ne prend pas soin d'elle, la ville finira par nous manger. C'est pas moi qui le dis, c'est Françoise Breut, dans son titre « Dérives urbaines dans la ville cannibale ».
Ça brûle !
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivi par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, 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 flux. Le flot flou de la foule, le flot flou de la foule, le flot flou de la foule, le flot flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques, les flics semaient le chaos avec leur sirène américaine. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux.
Alors que mon 10e arrondissement chéri se transforme doucement mais sûrement en forêt urbaine qui n'a rien à envier à la Sologne, on zoome cet après-midi sur la végétalisation urbaine avec la professeure d'écologie au Muséum National d'Histoire Naturelle, Nathalie Machon. Alors Nathalie, quels arbres il faut planter pour que ça soit efficace? Est-ce qu'il y a des arbres qui sont plus efficaces que d'autres dans les grandes villes?
Oui, il y a des arbres qui ont un feuillage qui est plus épais, donc ça permet de bien arrêter la lumière et la chaleur. Il y a des arbres qui causent pas trop de dommages aux chaussées, etc. Mais en fait, le principe de la biodiversité, c'est de mélanger les essences, c'est de pas avoir des rues que de platanes ou que de marronniers. En plus, il y a des espèces qui sont plus fragiles par rapport à la ville que d'autres. Donc, l'intérêt, c'est d'essayer de prendre des espèces les plus locales possibles, donc qui existent dans notre environnement habituel et qui
sont... On n'en importe pas de l'étranger ?
Bien sûr qu'on en importe, parce qu'on aime bien aussi avoir des espèces pour la beauté de leurs fleurs, etc. Mais le plus efficace pour le fonctionnement de l'écosystème, c'est quand même de prendre des espèces autour de Paris. voilà, des belles espèces qui supportent bien la ville, qui vont supporter les modifications du climat, parce que ça se réchauffe inexorablement, hein. Et puis qui soient différentes les unes des autres pour faire une complémentarité.
Et ça exige une grande connaissance. Je me pose juste la question, nos auditeurs aussi peut-être, il y a plein d'arbres qui sont plantés dans nos villes, c'est des spécialistes comme vous qui sont consultés pour chaque plantation, ou bien des fonctionnaires qui ne savent pas?
Alors, j'espère que c'est des gens qui sont formés. En tout cas, il y a des formations, hein. Maintenant, toutes les formations en horticulture, etc. Heureusement, les gens ont les compétences et ils peuvent vraiment trouver ce qu'il faut faire. Il y a des palettes végétales qui sont proposées, des choses tout à fait
d'accord,
en accord
vous les guidez, quoi.
Alors pas que moi, mais
non, oui, vous, Nathalie, vous les guidez.
Peut-être un mot, parce que moi j'en souffre en plus particulièrement cette année, mais des allergies. Ouais. C'est pris en compte quand on plante des arbres en ville?
Oui, il y a des espèces qui sont plus allergènes que d'autres, mais il y a un principe, alors là je me fie à ce que disent les médecins, c'est que des pollens allergènes, quand ils sont bien mélangés, bien dilués dans d'autres pollens, avec d'autres pollens, ils sont moins nocifs
quand
ils sont tout seuls. Par exemple, les pelouses, c'est des graminées, hein, des poacées qui poussent dans les pelouses, elles donnent beaucoup de pollens allergènes, donc c'est bien de mélanger avec d'autres types de plantes qui donnent des pollens qui sont inoffensifs. Alors évidemment, il y a toujours une petite contrepartie à tout ce qu'on fait, mais globalement, les enfants qui sont élevés dans des quartiers où la biodiversité est importante sont moins allergiques que ceux qui sont élevés dans des conditions un peu plus difficiles.
Est-ce que les urbanistes prennent en compte aujourd'hui cette donne? Est-ce qu'ils laissent systématiquement de la place à la végétalisation?
Alors, il y a des lois qui les aident à prendre de plus en plus en compte, mais à vrai dire, c'est vrai qu'ils ne savent pas très bien, que souvent, ils n'ont pas eu la formation au moment où ils faisaient leurs études. Et donc, on les accompagne beaucoup. En fait, on travaille beaucoup avec les architectes, les urbanistes, les paysagistes sur ces questions-là. Et on espère, le Muséum forme ces gens.
Ils doivent se battre par moments avec certaines mairies qui ne sont pas forcément d'accord avec végétaliser plus?
C'est pas tant les mairies que les gens, les citadins eux-mêmes. Bon, en général, les gens préfèrent acheter une maison entourée d'espaces verts.
Hein.
C'est pas trop le problème. Ouais. Mais après, accepter qu'elle soit pas désherbée, qu'elle soit pas coupée, nickel, tout le temps, ça c'est plus compliqué. Et donc, forcément, il faut de la gestion. Hein. Pour la biodiversité, elle nécessite un peu de gestion. Sinon, ça devient la jungle.
Là, autour de cette table, on est sur France Inter dans Zoom Zoom Zen, on s'enthousiasme évidemment pour la végétalisation urbaine, on est globalement tous d'accord, mais quel est l'air du temps en ce moment? On a vu qu'en mars dernier, les sénateurs ont décidé d'assouplir la loi zéro artificialisation des sols qui oblige à compenser toute construction par la renaturation d'un espace équivalent. On a l'impression qu'il y a une sorte de backlash, là, on est en train de revenir un peu en arrière.
Oui, chaque fois qu'on met des contraintes sur des activités économiques, hein, vous savez bien que voilà, on est dans un système où on n'aime pas trop les contraintes, surtout s'il y a des profits à se faire. Je crois qu'il y a les lobbies de la voiture, hein, qui sont quand même, puis même la culture, hein, il y a des tas de gens qui préfèrent avoir une place de parking devant chez eux plutôt qu'une pelouse. Donc forcément, c'est très difficile de concilier à la fois activité humaine et biodiversité en ville. Néanmoins, c'est quand même un sujet qui rassemble le plus en plus les gens depuis le Covid, moi je dirais, depuis que les gens ont été enfermés chez eux, voir du vert, ça leur fait plaisir.
On sait que le foncier peut être très cher dans les villes, dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous dites aux municipalités qui estiment que mettre de la verdure, de la végétalisation, c'est de la place perdue?
Ouais, c'est pas de la place perdue. D'abord parce que les gens préfèrent acheter, comme je disais, dans des quartiers un petit peu verts. Donc rien que le prix d'un appartement, il est pas le même si ça donne sur un espace vert ou si ça donne sur la cour d'en face. Donc c'est pas complètement. C'est pas si difficile à concilier que ça. Ce qui est important, c'est quand même que les habitants prennent le moins de place possible. Et ça, c'est difficile de se dire qu'il faut s'entasser dans des espaces pour laisser de la nature autour. Il y a quand même une façon de concilier, c'est de systématiquement, pour toutes les constructions neuves, exiger que les toitures soient végétalisées.
Oui, ça c'est un peu le minimum aujourd'hui.
Ça apporte quand même des terrasses, hein, où les gens peuvent cultiver des plantes, etc. Et puis même des espaces verts au sol, hein, ça c'est très important.
Sus aux clichés. On peut avoir sillonné la Basse-Normandie en estafette turbo-diesel pour vendre un café même pas bio. On peut être fan de sport mécanique et passer ses week-ends à commenter les grands prix de moto.
J'en ai des frissons !
Et être malgré tout un fervent écologiste. Non, je déconne, c'était pour voir la tête de Nathalie. Non, Quentin, vous êtes irrécupérable pour l'écologie. Je dirais même que vous êtes la honte écologique du service public avec toutes vos passions.
Je vous en prie.
Plus énergivores les unes que les autres.
Oui, oui.
Mais comme c'est votre métier, vous êtes allé interroger les gens pour savoir quel regard ils portaient sur la végétalisation urbaine.
Hôtel de ville, Paris, un soir de juin, il fait chaud, il fait lourd. Un petit garçon s'arrose la tête avec sa gourde. Une ligne de barrière de travaux grillagée laisse entrevoir ce qui sera inauguré le 21 juin prochain, une forêt urbaine. Je découvre les fougères, le lierre au pied de jeunes arbres qui atteignent parfois déjà plusieurs mètres. C'est en observant cette fin de chantier que je rencontre deux jeunes. Lui, il est étudiant en archi. Elle travaille dans la joaillerie.
Végétalisation urbaine.
Non mais ça là.
C'est vrai que ça y était pas avant ça. Mais je viens de capter.
C'est vrai, ça y était pas.
Sidéré que vous l'ayez pas vu, c'est moi qui viens de vous le montrer.
Bah, en fait, j'avais pas capté que c'était pas là avant.
Mais oui, on est cool.
Ah, c'est bien.
Ouais, les gens ne regardent plus, alors là maintenant, ils regardent avec attention à travers le grillage.
Par contre, je sais pas si on va pouvoir aller dedans. Là, ce serait trop demandé. Ça fait une belle petite forêt. C'est touffu, on aime bien.
C'est vrai, bah c'est un peu le greenwashing.
Ça fait un peu maquette.
Parce qu'il faut que cette forêt pousse, j'imagine.
Faut bien commencer par quelque part, c'est ça.
On se donne rendez-vous dans 10 ans et on voit.
Allez, ouais. Parfait, on fait comme ça. Nickel, à
bonne
dans
soirée.
10 ans.
Allez,
merci beaucoup.
Super, silence, ça pousse. Michel, elle, est à la retraite. Elle me voit arriver avec le micro. Elle me dit qu'elle veut pas passer à la télé, elle est pas maquillée. Mais je lui dis, ça tombe bien, c'est de la radio.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom à vous?
Michel. Bah, je me promenais avec une amie sur les quais de Paris-Plage, on a pris le soleil.
Ça a commencé Paris-Plage, là?
Non, c'est Paris-Plage, c'est le 5 juillet.
Vous êtes bien au courant?
Ah oui, je suis au courant, j'ai regardé sur Google, j'y vais depuis 22 ans.
Ah oui, le projet de Bertrand Delanoë, lancé en 2002, a quand même conquis le cœur de cette Parisienne. Quel regard elle porte maintenant sur la...
végétalisation urbaine. Ah, je suis contre tout ce que fait Madame Hidalgo. Alors, je suis archi contre. Si c'est enregistré, ça passera pas, je pense.
Regardez ce qui se passe devant nous.
Non, mais je suis contre tout ce qu'elle fait.
Attendez, Michel, je prends 2 minutes.
On est endettés, elle a saccagé notre belle ville de Paris.
J'essaie quand même de lui parler de l'esplanade de l'hôtel de ville qui change de visage. Là, elle va faire une sorte de forêt urbaine.
Non mais elle est folle alliée, voilà.
Attendez, ça c'est moche?
Oui, non mais je suis... Il n'y a pas besoin de mettre ça à Paris, il y a les jardins et tout. Bon, je vous laisse s'associer pour parler d'Hidalgo.
Bah mince,
je vais dire des méchancetés.
Vous qui pensez qu'on allait passer un bon moment, Michel?
Au revoir.
Au revoir. Michel n'est qu'un exemple. Parmi d'autres, pour beaucoup de Parisiens, le seul nom d'Hidalgo peut être un repoussoir, qu'importe le projet d'ailleurs. Cette dame me sourit, elle a entendu l'échange qu'on vient d'entendre. Que pense-t-elle de cette forêt urbaine, elle?
Ah oui, c'est magnifique, oui. Mais on voit plus l'édifice, c'est un peu dommage. C'est quoi ça? C'est l'hôtel de ville?
Oui.
Ouais, voilà.
Ils veulent faire ce qu'on appelle une forêt urbaine.
Ah, devant l'hôtel de ville. Donc on le verra plus. Cacher les monuments, pour moi, c'est un peu dommage.
Ouais, c'est vrai que c'est un aspect auquel je n'avais pas pensé. Mais bon, voilà, maintenant je croise la route de Matisse.
Bonjour. Bonjour. Mais vous parlez à quelqu'un là-bas ou pas?
Non, je parle avec vous là.
Ok, très bien. Alors j'adore cette interview. Je suis censé dire quoi? Végétalisation urbaine.
À quoi ça lui fait penser à ce jeune homme?
Ça me fait penser à Anne Hidalgo, puis on est devant l'hôtel de ville.
Il y a quoi devant l'hôtel de ville?
Il y a beaucoup de barrières. Ah, il y a des arbres aussi maintenant. J'avais pas vu.
Personne la voit, cette forêt?
Ouais, personne la voit. Bah, peut-être parce qu'elle est artificielle. C'est mignon, j'attends de voir à quoi ça va ressembler maintenant. Je sais pas si c'était la mesure la plus urgente. Enfin, est-ce que ces arbres vont vraiment abriter les sans-abri, par exemple? Je sais pas. Est-ce qu'on va reloger les jeunes migrants de la Gaîté Lyrique sous les arbres de la place de l'hôtel de ville? On peut se poser la question.
Je réalise alors qu'il me manque un truc dans ce micro-trottoir, une petite enquête de voisinage. Alors j'attends 10, 15, 20 minutes devant une immense porte d'entrée en bois. Quand quelqu'un arrive, elle me dit qu'on se connaît. Mais non!
Si.
Hein, vous habitez là?
Oui.
Pourquoi on se connaît?
Eh bien, je vous ai rencontré lors de l'émission Zoom Zoom Zen sur la technoférence.
Vous étiez notre invité?
Tout à fait.
Pardon. Voilà, petite confidence. Ça arrive, petite confidence. Avec Manon Mariani, il nous arrive certains jours en rentrant dans studio de dire enchanté à des invités qu'on reçoit pour une deuxième fois. Peut-être que ça nous arrivera aussi. Ainsi va la vie médiatique. Alors Marie, puisqu'elle habite l'immeuble qui surplombe la place de l'hôtel de ville, discutons de...
végétalisation urbaine.
Là, vous êtes...
aux premières loges.
Qu'est-ce qu'on en pense?
On trouve que c'est super. Vraiment...
Tout l'immeuble?
Ah oui, non, tout l'immeuble sans exception. Ah ouais, parce que du coup, il va quand même y avoir des interventions, des concerts. Hein, le concert de la FNAC est maintenu. On avait un peu peur qu'il y ait moins d'événements, mais finalement, ils sont maintenus. On espère que ça va ramener un peu de fraîcheur. Et puis du verre, c'est toujours bon pour la santé, pour l'humeur.
Voilà. C'est vrai que pour l'humeur, voir de la verdure sortir du printemps comme ça dans la ville, ça change le mood, c'est indéniable. Elle ajoute une chose.
On est un peu curieux de savoir comment est-ce que cet espace va être habité par les gens dans la ville. Il y en a toujours des surprises.
Voilà. C'est à quoi ?
Oh bah, il peut y avoir des pique-niques, des fêtes improvisées, des gens qui vont aussi peut-être utiliser pour dormir. Sur la place, on a régulièrement des familles en situation de non-logement. Donc est-ce qu'ils vont utiliser aussi cet espace Je ne sais pas trop comment ça va être géré au quotidien, mais...
Ouais, reste à savoir ce que les Parisiens vont en faire, comment la ville va se l'approprier, est-ce qu'on y passera sans s'arrêter, sans même la voir peut-être, est-ce qu'on s'y installera vraiment pour un pique-nique, une manif ou pour une sieste à l'ombre des branches. Une forêt, ce n'est pas juste des arbres, c'est ce qu'on décide d'y vivre.
Nathalie Machon, cette place de l'Hôtel de Ville à Paris, est-ce qu'elle peut devenir un îlot de fraîcheur? Déjà, vous en pensez quoi de ce qui se passe là-bas, de ce projet-là?
Ben forcément, remplacer un espace complètement bitumé, enfin c'était des dalles de pierre, par de la végétation, c'est forcément très bénéfique, et la voisine a raison de le dire, très bénéfique et pour la biodiversité et pour les gens qui habitent autour. Il va faire plus frais. Alors après, l'accueil des SDF, ça sera ni plus ni moins, parce qu'il y a une forêt ou qu'il n'y en a pas, ça ne va pas changer grand-chose pour eux, malheureusement. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose, mais il y a quand même des règles à respecter. C'est-à-dire que ça veut dire de l'entretien. Si les arbres ne sont pas assez arrosés, ils vont mourir. S'ils sont plantés trop près les uns des autres, ils vont mourir. Si le sous-bois est très artificiel, c'est-à-dire on met, comme j'entendais, des fougères, des choses qui n'ont rien à faire là, a priori, c'est pas un écosystème qui fonctionne. Et du coup, c'est plus un gros bac de fleurs et un énorme bac de fleurs.
Mais c'est réglementé quand même, non ?
Non, pourquoi ?
Non ? Et non ? Il n'y a personne qui va vérifier ce qui est en train de se passer ?
Ce qui va pousser ?
Oui.
Ah ben, s'il y a des jardiniers pour le faire, ils vont arracher les espèces qui sont pas bien à cet endroit-là, etc. Ou alors ils vont laisser en libre évolution, ça, je sais.
En fait, c'est pas tant la question de la végétalisation de l'espace urbain, c'est la qualité de la végétalisation de l'espace urbain. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a des endroits où on fait un peu n'importe quoi, et ça, là, ça fait plus de tort qu'autre chose.
Les fougères qui sont, parce qu'il y a des fougères devant l'hôtel
de ville.
Elles ont
été plantées.
Elles ont été plantées, mais elles font déjà un peu la tronche, je vous le dis.
Ah bon, déjà ?
Elles sont déjà un peu marron, donc l'ouverture n'est pas... Mais c'est pas grave, parce que c'est encore jeune, c'est des arbres encore jeunes, ça veut dire que c'est sur du long terme, ça va pousser ?
Oui, normalement ça va pousser, et ça va pousser d'autant plus vite qu'ils sont serrés, parce qu'ils vont chercher la lumière le plus haut, le plus rapidement possible. Ça va pousser si les racines ont de la place pour ça, je sais pas.
Question bête, où vont les racines, puisqu'il y a le métro en dessous ?
Alors, bon, le métro, il n'est pas juste sous la surface. J'imagine qu'il y a suffisamment de terre pour qu'elle puisse s'épanouir, mais j'en sais rien. S'il y a un mètre de terre, ça n'a pas de sens. S'il y en a plus, c'est quand même possible. Et puis, il faut que ce soit arrosé, surtout au démarrage, sinon ça va mourir, c'est sûr.
Les arbres nous sauveront-ils du réchauffement climatique ? Car plus ça va aller, plus, comme l'avait prophétisé Éric Chardin... Ah oui, de Place Clichy à Porte-Maillot. On continue de zoomer sur les vertus de la végétalisation urbaine avec notre invitée Nathalie Machon. On testera vos connaissances du monde végétal avec un quiz spécial, les pouvoirs secrets des plantes. Si vous avez aimé l'émission Aux arbres citoyens avec Léa Salamé et Hugo Clément, vous allez adorer le Zoom Zoom Test qui arrive juste après Deria Yildirim et Groupe Simsek Cool Hand sur Inter.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Vous écoutez Zoom Zoom Zen spécial plante, une émission qui fait du bien aux citadins que nous sommes. Rendre la ville à la nature, fleurir le bitume, résilience du végétal face à la folie de l'homme, c'était le mantra de Manon. Lorsqu'il y a quelques mois de ça, au lendemain d'une émission télé qui l'avait beaucoup marquée, aux arbres citoyens, elle avait semé des graines de menthe bio spécial Morito de chez Naturalia dans un pot de fleurs chiné à la recyclerie. 6 mois et 140 apéros plus tard, à part des mégots, rien n'a poussé. Un échec qui ne doit pas vous décourager car il y en aura d'autres. Tenez, voici justement le Zoom Zoom Test. Ah. Un quiz consacré aujourd'hui aux espèces de plantes les plus surprenantes. Vous me direz, Mathieu, qu'est-ce que t'y connais, toi, en plantes? Eh bien, figurez-vous que le week-end dernier, dans un écolieu d'Ivry-sur-Seine, j'ai participé à l'atelier Ensemencer Babylone. Très bel atelier qui était présenté par le fils aîné de notre réalisateur Ghislain, Pierre-Paul-Jacques Fontana.
Oh non!
C'était passionnant et c'est là que j'ai gladé ces nouvelles compétences botaniques. J'ai hâte de partager avec vous. Ma première plante surprenante s'appelle la Nepenthes raja. Oui, nous sommes aux portes de l'Asie, dans un écrin de verdure luxuriante nommé Bornéo. Un bijou indépassable pour le Lonely Planet. Pas mal, mais pas aussi ouf que le square Christine Boutin à Lourdes, selon Lonely Planet, le blog de Pierre Courade. Expert en rien, mais spécialiste de tout. Il est actuellement en discussion avec CNews pour la rentrée. Si vous me trouvez méchant, sachez que je suis bien moins méchant que la Nepenthes raja, cette fleur qui peut lâcher un pollen mortel dans l'air. Sans faire ce bruit ridicule.
Belle imitation.
Elle peut becter Colonel, le chien de notre amie Hélène Gâteau.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Ou elle peut... Je vous en prie, Quentin.
Quentin.
Parlez pas de malheur. Elle peut becter Madeleine, la petite souris de notre open space.
C'est une bonne nouvelle aussi.
Oui, ça, c'est vrai.
Vous êtes un monstre, Quentin.
Oui.
Et heureusement, c'est Manon qui a la bonne réponse. Réponse.
Il n'a même pas répondu.
Je n'ai pas répondu, moi.
Oui,
je décore.
Vous décorez comme une plante verte, comme une plante grasse.
Madeleine.
Je sois loué, cette terrible plante carnivore ne peut pas avaler un chien adulte. Mais la petite souris de notre open space, oui.
Il n'est pas très grand, Colonel.
Nepenthes. Laissez Colonel tranquille. Nepenthes, c'est tout simplement la plus grosse plante carnivore du monde. Elle est assez large pour gober un rat ou un mammifère de petite taille. En revanche, on lui a un jour présenté une calzone Nutella. Elle a dit non, ça c'est trop dégueulasse, je laisse à Courade. Attention, pas le temps de souffler, on file à présent en Australie. L'autre pays de l'accordéon en jugé par ce titre intitulé Australian Folk Music, glané dans la base de Radio France. Là-bas, vous découvrirez la Jimpy Jimpy. 3 mètres de haut, soit 3 fois la taille de Pierre Courade, des feuilles vert foncé de 20 cm en forme de cœur, mais au bord dentelé, qui produit des fruits juteux ressemblant à des grosses mûres. Une merveille de la nature qui, attention aux gourmands, porte le nom scientifique de Dincrocnide moroïde et le délicat surnom de plante au suicide. Car si on mange une de ces baies, on devient fou au point de vouloir en finir. Parce que Dendrocnide moroïde file de telles hémorroïdes qu'on a envie d'en finir. Ou parce que sa piqûre est tellement urticante qu'un homme s'est suicidé pour y mettre fin.
C'est
A.
Vous, c'est toujours le choix du pire, Quentin.
Allez.
Vraiment. Hein. Manon ?
J'ai dit A.
Vous avez dit A ? C'était quoi, là ? Bon, c'était pas ça, on s'en fout. Bonne réponse de Quentin. A. Fascinante nature. Prenez garde lors de votre prochain road trip en Australie. Le contact avec les feuilles et les tiges de la Jimpy Jimpy provoque la cassure de petites ampoules de silice qui pénètrent alors dans la peau. La piqûre provoque une sensation de brûlure douloureuse qui peut durer des jours, voire des années, au point de pousser un Australien à mettre fin au calvaire de façon définitive, d'où son surnom The Suicide Plant. Il y a pourtant plus étonnant encore que la Jimpy Jimpy. Cyril, qui a croisé son chemin lors d'un stage de survie de la CIA en Amazonie, aurait pu vous en parler lui-même, mais le traumatisme est encore trop fort, puisque c'est à la suite de ce stage qu'il avait été muté à la circulation. Il préfère donc que je le raconte moi. Tout est allé très vite, trop vite. Tout avait pourtant si bien commencé. Après avoir marché une demi-heure, Cyril avait décrété que c'était l'heure du casse-croûte. Oh, 3 fois rien. 6 œufs durs, un pâté en croûte, une terrine de foie de volaille, une blanquette de veau et un reblochon fermier.
Le tout
arrosé d'un thermos de Côte-du-Rhône. Là, il s'adosse à un arbre.
6 œufs durs.
Commence à déguster quand soudain, sa vue se trouble, son souffle devient court, il est pris de tremblements, comme quand Manon prononce le mot matriarcat. Sauf que là, ça ne passe pas. Dans un réflexe typique d'un agent de la CIA, Cyril referme le thermos de rouge, se redresse et se met à courir. Mais le cauchemar continue, puisqu'il est atteint par une rafale. Une rafale de quoi? Il ne le sait pas encore, il pense aux communistes, ces salauds de coco, ils crèveront donc jamais. Mais que foutraient des communistes dans une forêt sud-américaine en 2025? Ses pensées sont confuses. Mais vous, Manon Quentin, en expert du biotope subtropical et de la végétalisation, vous avez forcément compris ce qui s'était passé. D'autant que la question a déjà été posée.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est une redite, vraiment, quoi. Je me rappelle.
C'est la fin de saison. C'est une sorte de best-of de florilège.
Ouais,
c'est
la meilleure question.
On en profite
que
tous.
Que s'est-il passé? Cyril s'est assis contre un saule piqueur, un arbre qui héberge des guêpes tueuses. Cyril s'est assis contre un hurra crépitans, un arbre dont la sève toxique vous rend fou. Ou Cyril s'est assis contre un bombardier, un arbre qui propulse ses graines à plus de 240 km/h.
C'est.
Mais non, c'est
heureusement que cette question a déjà été posée, puisque la bonne réponse.
C'est les trois?
C'est la une catastrophe.
C'est la A.
Eh bien, je vous la reposerai demain, puisque vous êtes signé comme ça, que vous ne vous retenez. C'était les B et C.
Oh, bon, on avait raison tous les deux.
C'est vraiment pas de bol, le sort sa charme sur ce malheureux la carrière. Ne jamais pique-niquer sous un bombardier de la forêt atlantique. Sa sève et ses graines peuvent provoquer tachycardie, troubles de la vision, confusion mentale, convulsion et décès. Un arbre de 45 mètres de haut qui, en plus, balance ses graines à 240 km/h, d'où son nom, le paix du diable, qui, hasard amusant, est aussi le surnom qu'on avait donné à l'attaque bactériologique menée par Cyril dans l'Open Space un jour où il y avait du chili con carne à la cantoche. Victoire de Quentin, mais visiblement sans conviction du côté de la régie.
Ah oui, c'était égalité.
On me signale que vous avez été aussi nuls l'un que l'autre.
Merci à tous.
Plus de verre dans nos villes. Nathalie Machon, professeure d'écologie au Muséum National d'Histoire Naturelle, est toujours avec nous pour tout comprendre du processus de végétalisation urbaine. Phénomène qui n'a rien d'une lubie de bobo décroissant, on en parlait. Je lisais, la verdure est revenue à Paris avec le baron Haussmann qui décide d'organiser le service des jardins et qui plante des arbres le long des grands boulevards. Est-ce que c'était une révolution à l'époque, ça, quand même, de réintroduire du verre dans Paris? Vous avez minimisé un peu tout à l'heure le travail du baron Haussmann. Je vous ai senti un peu, je vous ai senti un peu critique. Mais
bah, je crois que le baron Haussmann, il avait surtout pour ambition de mettre les masses ouvrières en dehors de Paris, parce que dans Paris, c'était un peu compliqué de gérer. Il y avait quand même eu quelques révolutions qui étaient passées par là. Et donc, le but, c'était de rendre à Paris son faste, de montrer qu'elle était compétitive par rapport à d'autres villes, que d'autres capitales européennes, et la ville de Londres était un exemple pour lui. Mais lui, ce qu'il aimait, c'était de la nature très bien rangée, hein, c'est-à-dire tout devait être... Il avait fait des petits squares dans tous les arrondissements, enfin ce qu'on appelle maintenant des arrondissements. Le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, qu'il a... Le bois de Vincennes, il a été créé complètement à partir...
Ah, il est artificiel, le bois de Vincennes ?
Ouais, il a été créé à partir de pas grand-chose, d'espaces qui étaient de l'artisanat très très pollué, où il n'était pas question
c'est
de...
C'est quand même pas mal alors, ce bois de Vincennes, il est grand,
C'était tout à fait bien, mais lui, il n'avait pas une idée très précise de ce qu'il fallait mettre comme espèce, et ça devait être très bien rangé, voilà. Donc,
mais vous parliez des squares, mais du coup, les squares et les parcs du 19e, ils sont encore adaptés aujourd'hui ?
Alors oui, enfin de toute façon, tout ce qui est végétalisé dans une ville, c'est intéressant, c'est bon à prendre. Et ces squares, ils sont intéressants. Il y en a qui sont plus ou moins laissés en autogestion, on va dire, en évolution libre. D'autres très très gérés. Évidemment, plus c'est géré, moins c'est intéressant sur le plan de la biodiversité. Mais il faut aussi concilier les besoins des Parisiens, des citadins en général, des enfants, etc. On peut pas tout faire tout n'importe comment. C'est bien qu'il y ait un peu de gestion, mais c'est important qu'il y ait le plus de végétation possible, effectivement.
Je vois de plus en plus d'articles sur le dépavage, le fait d'enlever le bitume de nos villes, de dépaver, en fait, tout simplement, les avenues, les grandes avenues. Est-ce que vous pensez que c'est le futur ? Est-ce que ce sera en complément de cette végétalisation ?
C'est tout à fait le futur, surtout pour une ville comme Paris, où le poids de l'histoire, les monuments historiques, les bâtiments historiques sont très difficiles à végétaliser, et on ne peut pas mettre des toitures végétalisées sur les immeubles haussmanniens. Donc la contrepartie, c'est d'essayer de reconquérir les espaces qui ont été complètement bitumés, d'où l'idée de la forêt sur la place de l'hôtel de ville. On est en train de désimperméabiliser les cours d'école, ça c'est génial, parce que non seulement c'est bien pour l'écologie, pour les plantes, etc., mais c'est aussi très bien pour les enfants qui s'épanouissent beaucoup mieux, qui ont des évolutions psychomotrices bien améliorer quand ils ont accès à des végétaux qui peuvent casser des branches, couper des plantes, etc. On travaille beaucoup là-dessus.
Nathalie, est-ce qu'il y a des villes dont il faut s'inspirer ? Peut-être qu'ailleurs qu'en France, je sais pas, j'ai vu que Copenhague avait été élue ville la plus agréable du monde. Enfin, je sais pas du tout si c'est particulièrement vert, mais est-ce qu'il y a des villes qui devraient nous inspirer ?
Alors, il y a l'exemple qui est assez typique, c'est Berlin, où ils ont vraiment ils ont une forêt urbaine qui est une vraie
forêt. Là, c'est de la vraie forêt urbaine.
Ouais. C'est de la vraie forêt. Je suis allée à Oslo, tous les bâtiments neufs sont végétalisés, les toitures sont végétalisées, les bords de rivière sont renaturés. On est dans Oslo et pourtant il y a une rivière qui coule avec...
Et oui, il n'y a pas de béton autour, il y a pas de... c'est directement l'eau, la terre,
c'est ça.
Et nous.
Donc,
inspirons-nous d'Oslo.
Voilà.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir Manon, l'autre personne à suivre.
Je vous présente Anne Hidalgo. Elle a 64 ans, elle est française et elle est maire de Paris. Élue en 2014, puis réélue en 2020, Anne Hidalgo est la première femme à la tête de la capitale. Issue d'une famille d'Andalousie, elle s'est imposée dans un univers politique souvent dominé par les hommes. Et si elle fait autant parler d'elle, c'est en grande partie pour sa politique écologique ambitieuse, mais qui fait souvent l'objet de controverses, on l'a évoqué. Car depuis 10 ans, Anne Hidalgo transforme Paris, moins de voitures, plus de vélos, moins de béton, plus de verdure. En 2016, Anne Hidalgo prend la décision de piétoniser les voies sur berge, ce qui a mis en colère de nombreux automobilistes. Autour de la Tour Eiffel, le parvis du Trocadéro a été transformé en promenade verte. Même les toits, comme celui de l'Opéra Bastille, se couvrent de potagers urbains. Sur les Champs-Élysées, un projet est en cours qui prévoit de planter 150 arbres et de réduire la circulation de moitié d'ici 2030. À terme, elle promet 170 000 arbres plantés d'ici 2026. Mais chaque aménagement suscite des critiques. On lui reproche d'enlaidir la ville, de multiplier les chantiers sans fin et de mener une écologie punitive. Elle est devenue l'une des figures politiques les plus moquées de France, particulièrement sur les réseaux sociaux, avec le hashtag populaire Saccage Paris. Sa campagne présidentielle ratée, elle n'a fait que 1,7%, a encore amplifié ce phénomène. Pourtant, Anne Hidalgo assume, elle répète que Paris doit se préparer au changement climatique, lutter contre les îlots de chaleur, redonner la priorité aux piétons et à la nature en ville. Résultat, en 10 ans, elle a réduit de quasiment de moitié le trafic. À terme, son but est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. L'année dernière, elle a été distinguée par le prestigieux magazine Forbes pour son action contre le réchauffement climatique. La mairie de Paris ambitionne d'ajouter 300 hectares de verdure en plus dans la capitale d'ici 20 ans et notamment de créer 500 nouvelles rues-jardins, des rues où les places pour se garer sont remplacées par de la végétalisation, avec quand même un coût moyen de 500 000 euros par rue. Des décisions qui ne plaisent pas forcément aux commerçants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris a beaucoup changé en 10 ans, grâce ou à cause de Anne Hidalgo, ça dépend de quel côté on se place. En tout cas, elle a annoncé qu'elle ne briguerait pas de troisième mandat en 2026.
Merci Manon, même si j'ai un peu mal à ma taxe foncière avec ce que vous venez de m'apprendre. Nathalie Machon, globalement, l'heure bientôt au bilan pour Anne Hidalgo, elle a fait du bon boulot.
Je pense qu'elle est elle va dans le sens de l'histoire, du changement climatique. Je ne me prononcerai pas sur sa politique, mais il est vrai que les villes sont obligées de prendre en compte de plus en plus la nature. Et elle a bien été dans ce sens-là. Moi, je crois aussi qu'on entend beaucoup les gens qui ne sont pas contents, mais il y a beaucoup de gens qui sont contents aussi. Et sur la santé publique, sur la qualité de l'écosystème, les oiseaux, etc. La Seine... Le nombre d'espèces de poissons dans la Seine est passé de quelques-uns, je ne sais plus, c'était 2, 3, 4 espèces. Maintenant, il y en a plus de 30.
Et donc, on va pouvoir se baigner dedans cet été, je vous le rappelle. Je vous donne tous rendez-vous.
Comme Pierre Courade.
Tous en slip.
Vous allez plonger dans la Seine. Tous en slip, c'est votre opération peut-être.
Tous en slip avec Hidalgo.
C'est mon opération. À suivre, vous n'avez pas tout suivi à notre discussion sur la végétalisation urbaine. Vous avez encore peur qu'ils plantent de la coriandre sans vous avertir. Rassurez-vous, Pierre Courade vous résume tout ça en une minute chrono. Juste le temps de saluer celle qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour.
Bonjour Mathieu, aujourd'hui je vais vous décrire les effets de la canicule sur une femme enceinte.
Ah oui, il va falloir plus de 3 minutes je pense pour ça. La chronique de Rosa Burstein, c'est juste après Yamé. Shoot dans Zoom Zoom Zen.
Ne prends pas la tête, je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine, nous deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans la reine. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fume à perte de vue. Mais est-ce que je finirai par en perdre la vue? Oui, je me dis que c'est pour l'inspire. Et qu'un est hyperactif. J'allume mes cordes, le chromie. Je voudrais chanter toute ma vie. Ma gueule, ça joue, 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 joue.
que le daron puisse qu'il débellise. Je m'inquiète, sa santé se fragilise. Donc une dernière fois, je me carbonise.
Pour lui, la nature n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est bien domestiquée. En bon parisien, il considère que même les solifleurs en terrasse du Cornichon, son troquet préféré, sont de trop puisqu'il faut les foutre sur la table d'à côté quand arrivent les œufs maillots à 18 balles, sinon t'as pas la place. Pierre, chaque après-midi, vous avez l'art de nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, qui plus est en saupoudrant votre chronique de vannes qui font pâlir de jalousie les humoristes professionnels de cette émission.
Tu parlais de Quentin, là ?
Je suis pas drôle, moi.
Entre autres.
On le savait. Cet après-midi, on a parlé de la végétalisation urbaine, un terme en forme d'oxymore, mais qui est aujourd'hui devenu une nécessité pour lutter contre la chaleur dans les villes. Notre invitée était Nathalie Machon, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour elle, la végétalisation urbaine est un nouveau défi, une révolution qui perturbe les habitudes. On l'a entendu dans le micro-trotte de Quentin sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris où commence à pousser une forêt. Mais l'idée n'est pas que de rafraîchir nos rues. La végétalisation urbaine est aussi une politique de biodiversité où on doit faire cohabiter les essences et les animaux. On connaissait les renards de Manon sur les trottoirs de Picpus. La végétalisation urbaine pourrait faire revenir d'autres espèces de mammifères et d'oiseaux. Le but n'est donc pas de tomber dans le greenwashing qui n'aurait pas grand intérêt, surtout quand on nous annonce 50 degrés l'été à Paris dans seulement quelques années. Notre invité nous a expliqué que la végétalisation urbaine était donc une question de vie ou de mort. Les arbres peuvent en effet faire baisser d'une dizaine de degrés la température en ville. Autre apport de la végétalisation urbaine, moins de béton, c'est moins de risque d'inondation. La végétation joue aussi un rôle de dépollution de l'air, de l'eau, du sol. Malgré tout, il faut faire avec les lobbies, les automobilistes, les promoteurs immobiliers, les scieries de la carrière, dont la vanne préférée reste de dire que j'habite le 20e arrondissement. J'ai beau lui dire que c'est faux, il est probablement dur de la feuille.
C'est pas drôle, mais c'est beau.
Merci Quentin.
Expression
Merci Pierre. Pour vous, Rosa Burstein, je crois que la végétalisation urbaine est une nécessité.
S'il vous plaît, des arbres, de l'oxygène, de la végétation, de la flore dans les rues. Écoutez le SOS d'une terrienne en détresse à 5 mois de grossesse qui transpire des fesses. J'étouffe. Mon existence se résume à boire, pisser, boire, pisser, boire, pisser à l'infini. Le quotidien du chanteur Renaud, sauf que moi, je suis à l'eau. J'avais une petite salopette de grossesse que j'aimais bien, mais je l'étais. Trop long à enlever quand on pisse autant. À la maison, c'est look robe longue sans culotte. J'ai plus l'énergie d'autant baisser et remonter ma culotte. J'ai pas l'entraînement du catéchisme, moi. Je suis pas Pierre Courade. Et quand je me retiens de pisser, j'ai mal. Ma vessie, c'est impossible de négocier avec elle. Elle me fout des ultimatums. En fait, t'as pas compris, je viens dans tous les cas, donc je te conseille d'aller aux toilettes. C'est pour ton fauteuil que je dis ça. Bon, bah, d'accord, vessie, je veux pas t'opposer l'argument que j'aimerais bien pouvoir continuer à mener ma vie à peu près normalement. C'est pas comme si j'avais aussi le mommy brain, j'oublie tout, le cerveau est moins irrigué. Oui, comme une érection, tout à fait, Quentin, arrête de mater mes nibards. La grossesse est bandée du bide, devenir débile et pleurer, tout me fait chialer. Et en 2049, il y aura des pics de chaleur de 50 degrés. Mais je suis un être humain, pas un poulet rôti. Ça a l'air trop bien le projet d'Hidalgo pour végétaliser la place de la Concorde, mais elle va partir et Rachida Dati va être élue et virer toutes les petites fleurs. Et même raser les trottoirs, il n'y aura plus de piétons à Paris. Et moi, j'ai pas le permis, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai peur du vide, du congé maternité. Allez, tout sort. Larmes, sueurs, vomito. Je pensais que les nausées allaient s'arrêter après le quatrième mois, mais je continue à être dans un état nauséeux. La gueule de bois sans l'alcool, c'est vache. Ça me l'avait déjà fait après l'élection de Macron, et là, c'est double dose. À la bonne époque, je me réveillais d'une cuite. Je me tournais vers le plan cul de la soirée avec de vagues souvenirs de boîtes de nuit, taxi et d'un rapport beaucoup trop tonique. Les mecs, les jeunes, là, la future génération, aïe, doucement, aïe, ça veut pas dire qu'on est sur le point de jouir. Mais bon, le lendemain, c'était refoulé, j'avançais, quoique non, j'écrivais quand même au gars, c'était cool, t'es bien rentré. Il me répondait jamais, je prenais un Xanax et j'oubliais. Aujourd'hui, je peux pas larguer le bébé à 5 mois, lui dire, écoute, c'était sympa, on a tenté l'aventure, mais en fait, non, voilà, faut que tu t'en ailles maintenant. Et non, le bébé a signé un bail, il reste jusqu'au 9e mois. Je suis une propriétaire démunie avec un locataire abusif qui organise des gros stuff. Il est tout seul, mais ça bouge à 5h du mat, ça casse tout à l'intérieur, juste un taré en fait. Après, je sais même pas si mon utérus est aux normes et quel est son DPE. On est plutôt sur une cavité utérine en F, voire en G. Quand il fait chaud, je dors le jour, je reste éveillée la nuit, je peux plus me cacher quand les gens me font chier. Ils voient mes yeux rouges saigner de larmes de fatigue. T'as déjà ton projet de naissance, tu vas essayer son péridural. T'as prévu aussi quelque chose pour ton mec dans la petite valoche pour qu'il se fasse pas chier à l'hôpital. Laisse-moi Vanessa, je dors. Ça y est, c'est bon, j'ai lu un bouquin sur le sujet, j'ai capté, mon col de l'utérus va s'ouvrir, je comprends pas les meufs qui s'envoient des articles, des vidéos, des podcasts. Ambassadrice, elle accouche de triplé dans un taxi à Tombouctou. En vrai, je veux bien écouter ce podcast, peut-être que ça m'endormira. On a deux ventilos dans la chambre, mais ils font un bruit d'hélicoptère d'assaut américain pendant la guerre du Vietnam. L'avantage, ça couvre le bruit de mes pets intempestifs. Moi, c'est l'avant-dernière chronique de la saison, mon périnée, lui, il est déjà en vacances. Bon, je vous laisse, faut que j'aille pisser, puis dodo.
Merci Rosa pour cette chronique qui m'a rappelé de bons souvenirs, à moi aussi en tant que conjoint. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et bientôt au Festival d'Avignon où vous jouerez votre spectacle Dédoublé avant de reprendre votre tournée en décembre prochain et à Paris le 20 janvier 2026 au Paradis Latin. On sera là avec nos plumes. Merci Nathalie Machon, grâce à vous Manon a désormais compris pourquoi tous ces travaux qui saoulent dans Paris sont nécessaires. Vive la végétalisation urbaine.
Bien
Manon,
sûr, mais moi, je suis
merci,
pour, hein.
Merci d'avoir été avec nous Nathalie. Je rappelle le programme dont vous êtes la coordinatrice, Sauvage de ma rue. Vous, soyez sauvages, mais restez quand même à l'écoute du transistor. Zoom Zoom Zen, la suite arrive juste après le journal de 17h avec la réponse à cette question qui hante Cyril Lacarrière depuis son dernier contrôle de la prostate, c'est quand la retraite? Pour zoomer sur la fin du conclave et ses conclusions, on va recevoir l'ancien patron de FO, Jean-Claude Mailly. Quentin nous parlera de la création des points d'usure pour les métiers plus pénibles proposés par la CPME. Manon nous racontera le virage d'Instagram qui tente d'échapper à son image d'appli des boomers, image qui m'avait échappé donc. Marie Debreur s'intéressera à l'actu de Gérard Depardieu. Quant à Cyril, s'il est en état de parler, sachant qu'il est encore sous le choc de la condamnation en appel de François Fillon, il vous présentera son must-have de l'été, le Trump mobile. A tout de suite.
Zoom Zoom Zen.
Dans un instant, la suite de Zoom Zoom Zen, on décrypte les tendances qui agitent la société.
Inter.